podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Alexandre Marlier.
Fringe est une série de 5 saisons et de 100 épisodes diffusés entre le 9 septembre 2008 et le 18 janvier 2013 sur le réseau Fox. C'est donc une série finie dont on vous parle aujourd'hui. J.J. Abrams, Alex Kurtzman et Roberto Orci sont les créateurs de la fiction. Cela nous inscrit déjà dans un type de série, Abrams étant le créateur de Lost entre autres. On analyse aujourd'hui cette série avec Sarah Sepulcre et Héloïse Rouard.
Présente.
Moi aussi.
Le titre de la série fait référence à la section du FBI qu'on suit, la section Fringe. Elle enquête sur des phénomènes étranges qui se déroulent dans le pays. Sarah, l'entrée dans ce monde complexe se fait comme dans Urgence, grâce à un personnage candide.
Oui, et c'est bien nécessaire. Si vous vous souvenez, dans Urgence, c'est John Carter qui arrive. On lui explique certaines choses du fonctionnement. Et donc forcément, on l'explique par procuration aux téléspectateurs. Ici, c'est Olivia Dunham qui nous permet d'entrer dans la fiction. Elle est agent de liaison pour les FBI à Boston. Or, un avion atterrit avec aucun être vivant à l'intérieur, puisqu'il était sur pilote automatique et a atterri en pilote automatique. Le FBI suspecte une action terroriste. Elle est donc appelée sur place pour faire le lien entre les différents services. Et c'est avec son regard à elle, de personne qui ne connaît pas du tout la division Fringe, ni les différents intervenants, qu'on va petit à petit apprendre les choses. Et on va notamment découvrir Philip Broyce, le patron de la division Fringe, sauf qu'on ne le sait pas encore. C'est lui qui dirige les opérations concernant cet avion. Il est d'ailleurs pas très sympathique dans ce premier épisode et on comprendra ensuite pourquoi. En fait, et comme ça vous le savez, il s'agit d'une maladie non connue causée par effectivement un acte de l'ordre du terrorisme, mais ce ne sont ni les islamistes, ni l'IRA, ni d'obscurs groupuscules néonazis qui sont en possession de cette technologie alors inconnue. Et à la fin du premier épisode, Philip Broyce engage Olivia Dunham dans sa division. Elle va enquêter donc avec lui sur ces phénomènes bizarres qui se déroulent de plus en plus souvent dans le monde.
Sarah, je me demandais comme ça en t'écoutant, est-ce qu'on peut dire que Fringe est un petit peu le X-Files du troisième millénaire ?
Ça ressemble un peu en effet. Hein. On a une division du FBI qui enquête sur des phénomènes un peu étranges. Et en plus, mais ça bon, on l'apprend petit à petit en regardant la série, elle commence de manière très sérielle, une enquête par épisode, et puis elle va, comme X-Files l'avait fait, devenir de plus en plus feuilletonesque. La section Fringe n'est pas quand même tout à fait pareil. En fait, si on l'appelle la section Fringe, c'est parce qu'elle utilise ce qu'on appelle les Fringe Science en anglais, c'est-à-dire les sciences marginales, pour enquêter donc sur ces phénomènes étranges et inexpliqués. Avec donc cet avion contaminé, cette division Fringe, on n'est pas à son premier essai, et on apprend que ben, y a des choses qui se sont déjà passées avant, sauf que nous, simples mortels, on n'est pas au courant, forcément. Et Olivia n'est pas la première à rejoindre l'équipe, d'ailleurs, durant ce premier épisode. Elle fait appel à Walter Bishop, un scientifique un peu particulier, qui a justement fait des recherches et des expériences dans le cadre de ces sciences. Alors, maladies rares, cryptozoologie, transhumains, enfin, téléportation, vous voyez ce genre de trucs. Sauf qu'il est dans un asile psychiatrique, qu'il faut donc aller chercher, et... D'où l'arrivée du troisième personnage, Peter, qui est le fils de Walter, dont on a besoin de la signature pour le faire sortir. Et donc, résultat des courses, à la fin de l'épisode, vous l'avez senti arriver, Olivia, les Bishop père et fils, entrent dans l'équipe. Et donc, on n'est pas face à un agent habituel du FBI qui est un croyant versus une sceptique qu'on lui met dans les pattes pour enquêter. C'est vraiment la création ici d'enquêteurs qui vont travailler là-dessus, qui remettent jamais en doute. On perd, si vous voulez, ce doute qu'il y avait sur les activités de Mulder. Tout le monde autour était normal, c'était juste lui qui était anormal. Ici, on est vraiment plongé dans un monde dans lequel plein de gens se rendent compte qu'il se passe des choses que simplement nous, on ne connaît pas. Il y a encore un autre personnage qui rejoint l'équipe, c'est Astrid Farnsworth, qui était l'assistante d'Olivia auparavant. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls personnages qui apparaissent. Hein. Par exemple, dans le FBI, il y avait Charlie Francis, qui est l'ex-collègue d'Olivia. Ça complète le tableau du côté du FBI. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, la section Fringe existait avant que la série ne commence, mais on ne voit jamais d'autres personnages, etc. Alors, on entend un moment Philip Broyce qui dit qu'il espère que cette équipe aura plus de chance que les dernières, avec cette idée que peut-être elles sont chaque fois différentes, mais on a l'impression qu'on découvre à peu près tout avec cette équipe-là. Et on va apprendre petit à petit, et ça, c'est une similitude probablement avec X-Files, que tous ces phénomènes sont liés, probablement. Ils font partie de ce qu'on appelle le projet en français et de pattern en anglais. Soit dit en passant, la version originale est quand même mieux au niveau des voix et du jeu des acteurs, comme souvent, mais bref. Alors là, dans ce macro-récit-là, vont apparaître de nouveaux personnages très intéressants qui ne font pas partie ni du FBI, ni de la division Fringe, et je vous en cite simplement deux. Nina Sharp, d'abord, c'est la mystérieuse directrice de Massive Dynamics, qui est une compagnie de pointe dans le domaine des hautes technologies. On apprendra qu'elle est dirigée par William Bell. William Bell qui était l'associé dans les recherches de Walter Bishop auparavant, qui donc lui ne s'est pas fait interner et qui a profité de manière économique en tout cas des découvertes de ce dernier.
Joli clin d'œil de la part de J.J. Abrams puisque c'est Leonard Nimoy qui interprète ce personnage. Leonard Nimoy qui était l'inénarrable Spock dans Star Trek.
Oui, d'ailleurs c'est un personnage très intéressant ce William Bell.
Ce qui s'est passé dans l'avion pourrait faire partie d'un phénomène plus dangereux que le simple terrorisme.
Le simple terrorisme.
Depuis ces 9 derniers mois, une trentaine d'événements de ce genre se sont produits. John Thompson, un enfant porté disparu en 98, réapparaît le mois dernier à l'autre bout du monde sans avoir vieilli d'un jour. Depuis quelques mois, 46 autres enfants portés disparus cette même année ont refait surface, même topo. Un pêcheur sur les côtes du Sri Lanka signale un avion en basse altitude émettant des fréquences aiguës qui ont pulvérisé toutes leurs vitres. Une heure plus tard, au même endroit, un séisme sous-marin de magnitude 8 a engendré un tsunami qui a fait 83 000 morts.
Pour quelle raison
vous dites tout ça ? Un malade qui se réveille brutalement après 8 ans de coma se met soudain à écrire des chiffres qui correspondent très exactement aux coordonnées de nos porte-avions dans le Pacifique. Des renseignements qui sont classés plus que top secret.
Comment tout cela est-il possible ?
Travaillez pour moi. Et je vous donnerai accès
à... Non, stop !
Il y a autre chose qu'il faut que vous entendiez.
Mais vous n'entendez pas, j'ai dit stop !
On appelle ces phénomènes le projet. Comme si on faisait des expériences et que le monde entier servait de laboratoire. Vous l'avez vu, vous le savez.
Je ne veux pas le savoir, j'ai déjà un travail.
C'est un travail plus important. Tout ce dont vous aurez besoin, personnel, matériel, vous l'aurez.
J'aime le travail que je fais. Et l'homme avec qui je le fais, comme il semble que vous l'ayez deviné.
Regardez autour de vous. Tous ces gens qui mènent tranquillement leur vie, sans se douter une seule minute de ce qui se passe dans le monde.
Je veux que tout redevienne comme avant.
Denham, je crains qu'il ne soit trop tard.
On ne sait jamais très bien où se place Nina Sharp, où se place Massive Dynamics dans tout ça. Et c'est l'un des intérêts d'ailleurs de cette série. Et puis, autre personnage secondaire, mais là ils sont plusieurs, ce sont les observateurs, the observers en anglais, qui sont des hommes habillés en costume noir, avec des instruments bizarres, chauves, et qui sont présents régulièrement pour regarder. C'est tout ce qu'ils font, la plupart du temps. On se rend compte qu'ils sont en fait présents depuis très longtemps, puisqu'ils sont représentés dans des tableaux anciens, sur des photographies historiques, dans des films, etc. Et on comprend donc qu'ils voyagent dans le temps, puisqu'ils ont toujours la même tête, ou qu'en tout cas, il y a probablement quelque chose de cet ordre-là.
Profusion de personnages, profusion aussi d'histoires possibles. On le sait, en tout cas, ça peut générer une histoire très intense, très intéressante, mais on sait aussi que c'est J.J. Abrams qui est aux manettes. Et donc, il a aussi la fâcheuse tendance à s'égarer.
Ah oui ?
Qu'est-ce que ça donne ?
D'autant plus qu'il y a un élément dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'on va aussi entrer dans des mondes multiples et parallèles. Donc là, ça rajoute encore une couche, et on peut se dire « aïe ». Deux, trois mots, et là, c'est peut-être l'un des seuls petits spoilers, et encore, c'est saison 2, donc comme il y en a 5, voilà. Tout a commencé, en fait, avec Walter Bishop, qui perd son fils Peter, mort d'une maladie dont je ne me souviens plus laquelle, en fait. Et comme il avait trouvé la possibilité d'observer ce qui se passait dans un univers parallèle, grâce à une espèce de fenêtre de son invention, il travaille ensuite sur le moyen de s'y rendre, et il va kidnapper Peter, l'autre Peter, dans le monde parallèle, malade lui aussi, pour le soigner, sauf qu'il ne le ramène jamais à ses parents. C'est-à-dire qu'il le garde.
Et de ce coup-là, finalement, c'est lui qui crée cette fameuse faille entre les deux mondes.
Et à partir de ce moment-là, la division Fringe pense que tous les phénomènes inexpliqués sont causés par l'autre univers qui les attaque pour se venger, puisqu'en fait, les voyages de Walter de l'autre côté ont causé des anomalies dans ce monde-là qu'il met en péril. Donc on a une histoire, une intrigue autour de ces deux mondes, et forcément, vous entendez que ces deux univers vont rentrer de plus en plus au contact au fil des saisons. C'est super intéressant, je trouve, cette intrigue. Et c'est une des forces souvent des séries de J.J. Abrams de pouvoir ouvrir des choses intéressantes. C'est intéressant d'abord parce que l'autre univers, il est à la fois identique, tout en étant différent avec le nôtre. C'est exactement le même univers, sauf qu'il a connu une évolution un peu différente. En tout cas, on y retrouve les mêmes personnages. Et je trouve que, à la fois les auteurs, mais aussi les responsables de l'aspect visuel de ce second monde, ont bien réussi leur coup. À la fois, il est beau et banal. On s'y reconnaît et on trouve des choses tout à fait étranges en même temps. Et je pense notamment, deux, trois exemples. La Statue de la Liberté n'est pas faite dans le même alliage, manifestement, puisqu'elle n'a pas la même couleur. Il y a encore des zeppelins, par exemple, dans ce monde-là. Et
ça place aussi, quelque part, le spectateur entre deux mondes, puisque, faut-il le rappeler, quand les épisodes se déroulent dans ce monde-là, le générique n'est pas le même, il n'a pas la même couleur.
Il y a plein de choses en fait très intéressantes dans le Fringe. Je ne vais pas vous parler non plus des signes dans les épisodes, mais c'est effectivement assez bien conçu. Ça semble assez cohérent et c'est pas juste une histoire, on vous l'englobe toujours très bien, ça J.J. Abrams, c'est très bien faire, il faut quand même l'avouer.
C'est très malin, je dirais.
Oui. Alors les personnages, je vous l'ai dit, ont leur double dans l'autre univers, qui sont des déclinaisons, là aussi, un peu pareilles et un peu différentes de leur être. On voit qu'ils partent d'une même base, mais qu'on a évolué différemment. Astrid, par exemple, qui est un personnage minutieux, discret, sur qui on peut compter, dans l'autre univers, elle devient un génie du chiffre, donc comme si elle avait poussé la minutie jusqu'à la précision mathématique. Et sa discrétion devient presque de l'autisme un peu. Elle a des manières très bizarres. Olivia, c'est toujours Olivia, sauf qu'elle est brune et qu'elle paraît un peu plus heureuse, plus légère. Elle est en couple, elle est aussi plus dans l'action. Donc faux Olivia, parce que ça aussi ils ont trouvé. Olivia devient faux Olivia, en tout cas dans la version anglaise, n'a pas été l'objet d'expériences scientifiques durant son enfance et donc peut-être qu'elle a pu avancer autrement. Lincoln Lee, qui est un des agents qui apparaîtra dans les saisons du FBI, est aussi présenté de manière tout à fait différente. C'est un winner en fait dans l'autre monde, il est chef d'équipe, il est très efficace, il est très dans l'action. Dans notre monde à nous, c'est un agent presque effacé, toujours intelligent et efficace, mais plutôt dans l'intellect. Donc c'est très intéressant de voir comment il décline ces deux personnages. C'est presque une leçon de scénario d'ailleurs et de construction de personnages, comment on peut décliner les deux. Alors forcément, le seul qui n'a pas de double, c'est Peter, puisqu'il est mort dans notre monde à nous et que c'est le lien entre ces deux univers. Et ce qui est également intéressant, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas vous spoiler, c'est comment finalement ils vont gérer, les scénaristes, les relations entre ces deux mondes. Ils ont réussi à la fois à mener à bout le contentieux qui oppose ces deux mondes, tout en trouvant une porte de sortie originale qui permettait de ne pas faire de Fringe une guerre des mondes intergalactiques. Ce que Fringe n'est pas, c'est pas une série de SF. On ne va pas vers ça. Et donc je trouve que c'est assez intelligemment fait. Je trouve que du coup aussi ça permet d'amener des intrigues très intéressantes au niveau des thématiques. L'amour absolu d'un père jusqu'à commettre un acte qui n'est pas bien du tout. Les conséquences à la fois psychologiques sur les gens, les conséquences physiques, politiques, physiques dans le sens science physique chimie que ça peut avoir, ce voyage entre univers. Ça développe aussi toute une réflexion sur la science, ses possibilités, sur les limites qu'elle doit se donner. Donc je trouve que c'est une intrigue qui fonctionne assez bien. Donc non, dans ce type d'intrigue-là, en tout cas, Fringe ne s'égare pas.
Est-ce que les médecins ont dit autre chose ? Merci, Charlie.
J'ai quelque chose à vous dire. Mon père, que je porte pas dans mon cœur, est sans l'ombre d'un doute le fumier le plus égocentrique, le plus tordu, le plus brillant, le plus immoral de toute la planète. Vous dites qu'il était chimiste. Oui, mais ça, je le savais déjà. Il faisait des recherches pour un fabricant de dentifrice dans les sous-sols de Harvard où il avait son labo. Je sais aussi qu'il y a eu un accident une nuit. Ensuite, mon père a été arrêté. Pour nous, à la maison, le calme était enfin revenu. Bref, voilà où je voulais en venir. Quelque chose me dit que votre ami, celui dont la vie ne tient qu'à un fil, ne sera pas sauvé par un tube de dentifrice.
Au bout du compte, est-ce que la fin est convaincante ? Est-ce que ce qu'on nous a présenté sur un plateau est bel et bien quelque chose de qualité ?
Si moi je trouve que Fringe ne s'égare pas dans les multiples univers et intrigues un peu fantastiques, sur la longueur par contre, je trouve qu'elle est moins convaincante. Et de nouveau, je vais essayer de ne pas être trop précise sur cette cinquième saison parce que je ne veux pas vous gâcher votre plaisir. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs, vous, la cinquième saison ?
Moi, pas encore. Je me suis arrêté pour le moment à la saison 3.
Fringe, vous le savez, lance plusieurs intrigues. On le sait d'ailleurs depuis très longtemps. Walter et William Bell ont fait des expériences sur des enfants à l'aide d'une molécule, le Cortexifane. On voit les conséquences de cette thèse dans plusieurs épisodes et dès la première saison d'ailleurs. Et dès la première saison, on comprend qu'Olivia elle-même a été un cobaye. Et on sait d'ailleurs depuis la première saison qu'elle a des capacités particulières. C'est aussi une intrigue qui d'ailleurs se permet de se poser des questions sur l'éthique de la science, comment on gère un peu tout ça, ce que Walter n'avait pas beaucoup quand il était plus jeune. Alors on sait aussi qu'on a ces univers parallèles, ça je viens de vous en parler. On a aussi une intrigue autour de Massive Dynamics et William Bell, puisqu'on ne sait pas très bien à quoi il joue. William Bell est supposément mort, mais on se rend bien vite compte qu'en fait c'est probablement pas le cas. On ne voit pas très bien quelles sont les motivations de la société, de Nina, de William lui-même. On a une intrigue autour de ce fameux David Robert Jones, qui est un terroriste assez dangereux, qui semble avoir accès à toutes ces technologies, qui semble lui aussi pouvoir passer d'un monde à un autre, et on ne comprend pas toujours bien quelles sont ses motivations non plus. C'est vers ça, le dévoilement de ça qu'on va. Forcément, il y a aussi une intrigue autour de ces observateurs, qui y sont, qu'est-ce qu'ils font là, etc. Et puis il y a des intrigues habituelles et personnelles sur la relation entre les gens, qui tombe amoureux de qui, le père et le fils, enfin bref. On se rend compte dès le premier épisode que les relations sont très tendues entre le père et le fils. Ajoutez à ça les relations entre les personnages et leurs personnages dans l'autre univers. Voilà. Alors si ces intrigues sont bien menées, je pense par exemple à celles qui concernent William Bell et David Robert Jones, qui est assez convaincante, les univers parallèles, même le cortex Siphon qui relie finalement de manière assez bien menée plusieurs cas isolés et des intrigues différentes. Par contre, il y en a d'autres qui laissent complètement à désirer, et notamment, il y a une véritable rupture de contrat de lecture, moi je trouve, en tout cas, entre la saison 4 et la saison 5.
Sachant que la saison 5, finalement, c'était, entre guillemets, une bonne surprise pour la production, puisque la Fox devait au départ arrêter la série au terme de la saison 4.
Ouais. Et bah du coup, ils ont complètement changé la manière de mener l'intrigue. Je pense que plein de gens savent qu'elle se déroule dans notre futur. Je trouve que la manière de nous y amener, d'y amener les personnages, certains d'entre vieux et d'autres pas, d'ailleurs vous verrez pourquoi, est assez bien menée. Mais par contre, on évacue certaines intrigues pour n'en garder plus qu'une. Et cette intrigue n'est pas toujours convaincante. Il y a un événement qui se produit dans le dernier épisode de la saison 4 qui va permettre un espèce de reboot. On évacue ça. Et c'est un peu dérangeant, parce qu'on nous explique jamais ce qui se passe après. Pourtant, entre cette saison 4 et cette saison 5, il y a quand même quelque chose qui doit se passer. Et on sait pas toujours quoi. Puis en plus, depuis le début, on nous montre quand même quelque chose autour d'Olivia et de Peter. Et d'un éventuel enfant. Et c'est absolument évacué. Alors, à un moment donné, Peter va dans un autre univers et il a une relation avec cette autre Olivia. Dont, à un moment, on suppose une histoire de bébé. Et on dit, et c'est ça qui est important, ce sont des élus. Et donc, quand on dit ça dans une série, on est en droit d'attendre le destin de ces élus. Et je trouve que ça, on l'oublie un peu. C'est vrai que la saison 5 tourne autour, entre autres, de ce couple et de leur éventuel enfant, mais sans jamais revenir à cette histoire d'élus. Je trouve que c'est un peu dérangeant. C'est comme si on s'était égaré dans les saisons 2 et 3, des trucs qu'on évacue facilement. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, ils auraient pu le réutiliser probablement pour faire une sortie un peu mieux. Et enfin, les observateurs sont complètement différents. Alors certaines choses, c'est normal, et on comprenne parce qu'elles sont amenées par l'intrigue, mais d'autres pas vraiment. Et notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le fil des saisons, on voit de moins en moins leurs petits gadgets bizarroïdes, et ils sont de plus en plus des espèces de gens capables de lire dans les esprits et de manipuler les gens, et ça, ça n'est pas amené. On sent que les scénaristes ont eu besoin de passer d'un élément à l'autre et qu'ils ont évacué des choses l'air de rien. En fait, si on suit les saisons à distance, ça peut fonctionner, mais si on les regarde de manière très rapprochée, ce que j'ai fait, en fait, il y a des incohérences assez grosses, je trouve, entre ces différents éléments. Et en plus, la saison 5, moi, je la trouve lente. On prend un temps pas possible à rentrer dans l'histoire, un peu comme un bon vieux Balzac, et puis en un épisode, tout est réglé. Et ça, je déteste. Vous savez à quel point ça, je ne supporte pas quand on gère pas bien les récits. Donc, je trouve que non, la fin n'est pas convaincante.
Tu reprends dans quelques éléments aussi donc les faiblesses des séries de J.J. Abrams qui partent vraiment avec des ambitions énormes et des choses vraiment intéressantes qui ouvrent des portes, mais qui laissent les gens sur leur faim ou qui manquent au fur et à mesure du temps qui passe de cohérence. Malgré tout, un des éléments ou un des personnages importants dans cette série, et c'est sans doute une de ses forces, ou en tout cas, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est ce fameux savant fou sous acide qui est Walter Bishop.
Moi, je trouve que sans lui, ça vaut pas la peine de regarder la série, honnêtement. On peut être intéressé par les couples et la naissance de couples, mais c'est très habituel, finalement. Moi, ce qui m'intéressait dans cette série, c'était lui. D'abord parce que pas mal des thématiques les plus intéressantes passent par lui, et notamment l'éthique, le passé et ses conséquences sous les rapports humains, ce que je trouve très intéressant. Puis il est drôle. En fait, il est complètement à côté de la plaque quand il sort de son asile psychiatrique. C'est assez bien mené, je trouve. En fait, il est marqué, il y a des choses qu'il sait plus faire, il y a des choses qu'il connaît pas, parce que 17 ans enfermé dans un asile, forcément, on a loupé Internet et les téléphones mobiles. mobile. Par exemple, son fils a lui chanté une berceuse pour l'endormir. Il a des addictions aussi tout à fait rigolotes, notamment l'acide. Et donc, de temps en temps, il demande s'il peut avoir du LSD ou de la cocaïne, ce qui est d'ailleurs illégal. Hein. Mais c'est encore plus illégal quand on travaille avec le FBI. Et il a l'art de toujours demander ça quand il faut pas, c'est-à-dire à peu près tout le temps.
Tu as apporté ton sucre ?
Ne dis pas de sottises. C'est mon médicament.
Tu n'as aucun traitement à suivre, Walter.
Bien sûr que j'ai un traitement. Je le prépare moi-même au labo.
J'aurais aimé que ce soit une plaisanterie. Tu fais de l'automédication avec des drogues maison.
Un simple mélange de dextrométhorphane, de clonazépam et un peu de fluoxétine.
Ce sont des psychotropes, Walter. Tous les trois.
Évidemment, et pour cause. J'ai été enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant 17 ans. Ça m'a un peu déséquilibré.
Son échelle des valeurs est aussi un peu bousculée. Dès qu'il y a un être humain qui a un truc qui l'intéresse, il est capable de lire dans les pensées d'autrui ou il a des rêves bizarres, il a envie de le disséquer par exemple, et il demande s'il peut le disséquer pour trouver la réponse. Ben non, il faut garder les êtres humains en vie si possible. Petit à petit, on va oublier ce décalage dû à l'internement, parce que forcément il se rétablit, pour garder son côté loufoque et très enfantin, et notamment son goût des bonbons. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est un personnage qui est très souvent drôle. Et je trouve que son association avec Astrid est vraiment devenue très calibrée. Le jeu sur les prénoms est assez emblématique. Alors, il oublie sans cesse qu'elle s'appelle Astrid. Alors, parfois, il s'en souvient, en fait. Hein. Si vous allez voir sur Internet, il y a des montages d'épisodes où il se souvient parfois qu'elle s'appelle Astrid. Mais forcément, on se demande presque quel est le nouveau prénom qu'il va lui inventer cette fois-ci. En fait, je trouve même que leur association finit par voler la vedette à Olivia Peter, qui semble finalement un peu plus fade, je trouve. Ça arrive souvent dans les séries, mais ici, c'est tout à fait le cas. Et puis alors, et ça c'est aussi intéressant, et ça c'est aussi quelque chose que J.J. Abrams fait très très bien, Walter est celui qui permet de relier Fringe, la série, à Fringe tous les autres éléments. C'est-à-dire qu'il y a des livres ou des comics qui racontent son passé, il y a des vidéos YouTube de ses autopsies sur Internet, il y avait des outils pédagogiques sur le site de la Fox, Fringe Science, où les profs pouvaient utiliser ces séquences de cours pour donner cours sur la physique ou la chimie ou la bio à travers les épisodes. Et tout ça, en fait, est très souvent connecté à Walter. Donc, je pense que les créateurs eux-mêmes ne sont pas trompés. C'est vraiment, je trouve, un personnage qui est attachant. Et c'est ce personnage qui fait que j'ai continué la série jusqu'à la fin. Parce que je sentais bien que j'étais moins intéressée, finalement, par les intrigues en tant que telles.
Eh bien, voilà. On espère peut-être que ça vous aura donné ou pas l'envie de découvrir Fringe. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour un prochain dossier.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.